Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23. Et nous allons lire simplement, le verset 29. 23, verset 29. Ma parole, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? La parole de l'Éternel comme un feu, comme un marteau. Il y a plusieurs traductions, et certaines traductions nous disent qui brise, mais qui fracasse aussi. Alors le mot est peut-être un petit peu familier, et qui le fracasse quand même, qui le détruit. Et un autre mot qui nous dit qu'il le pulvérise, c'est-à-dire qu'il est inexistant après, il est pulvérisé. Dans le livre du prophète Osée, au chapitre 4 et verset 6, ce court verset tout simplement nous dit « Mon peuple périt faute de connaissance. » Faute de connaissance. Alors, quelques mots peut-être sur le prophète Jérémie, puisqu'il c'est lui qui a été inspiré, qui a reçu la parole que nous avons pu lire ce soir. Le prophète Jérémie est un prophète tout particulier, un prophète qui allait contre l'opinion publique, l'opinion du plus grand nombre. Jérémie était prophète du temps de Josias, à peut-être la 10-15e année du règne de Josias, qui était un bon roi. Certains commentateurs d'ailleurs disent qu'il était le plus grand des rois, peut-être même plus que David. Alors je laisse les jugements de valeur, mais en tout cas c'était un roi qui était humble, qui est revenu aux fondamentaux, un roi qui a ramené le peuple dans la bonne direction. Seulement, Jérémie savait que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait, pour que Dieu puisse œuvrer dans la vie de son peuple, une vraie repentance, pas quelque chose de superficiel, une vraie repentance. Il se trouve que Josias va mourir, et la parole de Jérémie était claire: vous allez être envahis, on va vous déporter à Babylone si vous ne vous repentez pas, si vous ne revenez pas à Dieu. 4 ans et demi plus tard, c'est ce qui va se produire. 2 déportations, première déportation, il va y avoir des hommes, des jeunes hommes, tels que Daniel et ses amis, qui vont être déportés à Babylone. Et plus tard encore, il va y avoir Ézéchiel, entre autres, également, qui va être déporté. Et la parole de Jérémie va prendre toute son ampleur quelques 22 ans plus tard, où le peuple va être détruit, dévasté. Ça va être là quelque chose d'insupportable, quelque chose d'épouvantable. Et nous savons combien, 70 ans après, ils vont revenir, avec beaucoup de dégâts. Jérémie était un prophète tout particulier parce qu'il était contre tous, contre même son propre père qui lui était même sacrificateur. Il était contre sa famille, contre les sacrificateurs, contre son père même, ses amis, les rois, tout le monde, les descendants, les rois qui ont succédé. Josias n'était pas terrible, eux. C'était les fils. Ils n'étaient pas top. C'était des mauvais rois. Et Jérémie va continuer à annoncer la parole de Dieu, continuer à assumer son rôle de prophète, d'honnêteté aussi devant Dieu, à annoncer la vérité, non pas ce que le peuple voulait entendre, mais ce que Dieu lui avait demandé d'annoncer. Et ça va être difficile. On dit que Jérémie était le plus grand prophète dans le sens où il a été persévérant comme aucun autre, dans une difficulté, dans un message très dur à entendre, très dur à accepter. On dit aussi que Jérémie, c'est le prophète qui pleure. Et il pleurait pour des bonnes raisons. Souvent, on dit un chrétien qui pleure, c'est un triste chrétien. Baliverne. Il y a des chrétiens qui pleurent, si nous vivions ce par quoi ils passaient, peut-être que nous aurions abandonné la foi. Un chrétien qui pleure, peut pleurer aussi pour des bonnes choses. Et le chrétien a droit de pleurer pour la repentance de son pays, par exemple, pour la repentance de sa famille également. Il y a quand même une espérance impressionnante dans le livre de Jérémie. Il n'y a pas que des Jérémiades. Il y a aussi cette parole de Dieu qui va apporter pour annoncer une nouvelle alliance. On lit ça dans Jérémie 31. Et cette nouvelle alliance, c'est cette alliance qui va être en Jésus-Christ. C'est l'Église de Jésus-Christ. La nouvelle alliance du peuple de Dieu. Et nous voyons quand même qu'il y a une similitude entre le travail de Jérémie, ce message qui a été rejeté, et l'œuvre de Jésus, qui lui-même a été rejeté. On peut le lire, ça, dans le prologue du livre de Jean. « Il est venu chez les siens ne l'ont point connu. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, nous, l'Église de Jésus-Christ, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Enfants de Dieu. Et ça, c'est pas rien, Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup de chrétiens, et ça va être un petit peu le sujet de la méditation de ce soir, vivent leur vie chrétienne en oubliant juste ce fait miraculeux, c'est qu'on est devenu enfant de Dieu. Et ça, c'est pas rien. Je ne suis pas un homme lambda. Je ne suis pas un individu. Alors, je ne suis pas meilleur que vous. Vous n'êtes pas pire que moi, je ne suis pas pire que vous. Mais on n'est pas des étrangers pour Dieu. On est ses enfants. Et ça, ça prend une dimension tout à fait extraordinaire et différente avec ceux qui nous entourent. Prions pour eux. Mais nous ne vivons pas et nous ne devons pas vivre les choses comme eux. On rend grâce, je fais une parenthèse, on rend grâce à Dieu à chaque fois qu'on partage à la maison le repas. C'est une bonne chose. Moi, mes enfants, à chaque fois qu'ils prient pour le repas, ils prient pour tout, mais pas pour le repas. Et pourtant, on leur dit, mais priez, parce que Dieu nous a bénis, il nous a donné de quoi manger ce soir. Et nous, on se rend compte que ce n'est pas simplement la sueur de notre front que nous gagnons notre pain, c'est aussi par la grâce de Dieu. Aussi par la grâce de Dieu. Alors la Bible déclare qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Le cœur de l'homme est aussi dur. Du temps du prophète Jérémie à aujourd'hui. Mais j'aime à dire aussi quand même que quand l'Ecclésiaste va dire cette réalité, Jésus n'était pas encore venu. Il y a, si je puis dire, et sans tordre le sens de l'Écriture, quelque chose de nouveau sous le soleil. Il y a la grâce. La grâce que l'Ecclésiaste n'a pas connue. Nous, nous l'avons non seulement connue, mais de plus, nous l'avons reçue. Mais le cœur de l'homme reste, lui, toujours tortueux par-dessus tout. Et Jésus dira lui-même que ce peuple est devenu insensible. Frères et sœurs, tout le respect, et je parle pour moi-même, pour vous dire la vérité, j'ai fait cette prière avant de venir, Seigneur, garde-moi dans l'humilité. Quand j'annonce ta parole, mon fils est arrivé, il m'a dit, papa, on fait une partie de FIFA. Alors, je ne sais pas, c'est un jeu de football sur les consoles vidéo. Il m'a mis 5-1. Seigneur, merci pour l'humilité. Ça m'a calmé. Ce que je vous apporte, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour nous. C'est pour nous. Alors, ce que je veux dire, frères et sœurs, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est que à l'époque du prophète Jérémie, quand il s'adressait à ces hommes qui pourtant connaissaient beaucoup de choses, connaissaient la loi, et qui n'ont pas reçu la parole de Jérémie, quand on entend Jésus parler aux sacrificateurs, aux pharisiens, aux scribes qui connaissaient la loi et qui n'ont pas accepté le message de Jésus. Attention à ce que nous-mêmes, sous titre de chrétiens, nous ne laissons plus Dieu nous parler ou accepter ce qu'il nous demande ou ce qu'il nous dit. La parole de Dieu nous met en garde sur cette réalité. On est dans la fin des temps, croyez-le, nous le sommes. Et Timothée va nous dire, car viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. C'est-à-dire qu'ils vont vivre leur vie chrétienne sans être quelque part contrarié par Dieu. On prend ce que la Bible dit quand ça nous intéresse, et quand ça ne nous intéresse pas, on referme. Ça, Seigneur, c'est peut-être vrai, mais pour quelqu'un d'autre, pas pour moi. On cherche ce qu'on veut. Et il y a une version qui dit ce qui nous chatouille l'oreille. Ce qui nous chatouille l'oreille. Entendre, d'ailleurs je l'ai noté, car le temps viendra auquel ils ne souffriront plus la sainte doctrine, mais ils aiment qu'on leur chatouille les oreilles par des discours agréables. Ils chercheront carrément des docteurs qui répondent à leur plaisir. Et non plus à ce que dit la parole de Dieu, mais des docteurs, vous savez, moi j'ai un médecin traitant, il n'est pas sympa avec moi. Quand je ne veux pas bien, il ne me fait pas de papier pour que je n'aille pas au travail. Mais j'ai des collègues de travail, ils ont des médecins, je vous garantis, je voudrais des fois avoir le même. Ils cherchent le bon médecin, quoi. Eh bien, sur le plan spirituel, il y a, hélas, j'espère pas au milieu de nous, mais en tout cas que ce soit une parole pour plus tard, des chrétiens qui cherchent les bons docteurs spirituels pour avoir une vie spirituelle comme ils l'entendent, comme ils le désirent, comme ils le sentent. Et je crois que cette parole est encore vraie aujourd'hui. La Bible, c'est un livre qui peut contrarier. C'est un miroir. Et le matin, quand on se réveille, le miroir nous dit « Ah ben mon gars, t'es une créature merveilleuse, mais passe-toi vite un coup de peigne quand même. Hein » Et la parole de Dieu nous rappelle que nous sommes enfants de Dieu, mais que nous sommes pécheurs. Et qu'il a encore à faire son œuvre dans notre vie. La parole de Dieu, ce n'est pas la lampe d'Aladin, si je peux me permettre, qu'on va caresser comme ça, et puis qui va répondre à tous nos désirs. La vie chrétienne, c'est pas, excusez-moi, le monde des bisounours. La vie chrétienne, c'est une vie merveilleuse, une vie où on goûte à la grâce de Dieu, mais une vie des fois qui nous reprend, qui nous tord. On va en parler, parce que le marteau, c'est ça aussi. Alors certains cherchent un évangile pour vivre une vie tranquille, c'est ce que j'expliquais. Pourtant Paul, qui n'est qu'un chrétien, parce qu'on parle de Paul comme un homme formidable, mais c'est la grâce de Dieu qui se manifeste en travers Paul. Un ministère tout particulier, mais un enfant de Dieu comme chacun d'entre nous. Paul avait reçu quelque chose de la part de Dieu, que Dieu a consigné, qui a voulu consigner en sa parole, pour nous rappeler tout simplement que ceux qui veulent vivre pieusement ou selon la piété seront persécutés ou souffriront. Pourquoi ? Parce qu'on est le péché, le chrétien est le péché. Et le monde dans lequel on est, c'est un monde qui flirte. Et plus que ça même avec le péché. Et ça nous fait souffrir. Et les décisions que le monde prend sont complètement à l'opposé des opinions que nous avons reçues de Dieu. Et cette confrontation fait un électrochoc. Et le chrétien est persécuté dans sa vie parce qu'il ne pense pas comme les autres. Et le chrétien souffre parce que le chrétien voit des choses qui sont complètement en désaccord avec la parole de Dieu. Pas d'illusion, le monde passera. Certains prient pour que le monde se convertisse. C'est bien. C'est une bonne chose de prier pour le monde. Mais n'oublions pas quand même que la terre est vouée au feu. Faut pas se tromper de combat. Parfois, je crois qu'il faut se rappeler que le chrétien... Il y a un proverbe qui dit, je n'ai pas la référence, mais qui dit qu'il vaut mieux une maison de deuil qu'une maison de joie. Parce qu'il y a certains chrétiens, quelques chrétiens dans des mouvements ou d'autres, ou même chez les pentecôtistes, hein, frères et sœurs, qui passent leur vie chrétienne à rigoler, à danser, à chanter. C'est une bonne chose de rigoler, c'est une bonne chose de chanter. Mais quand dans le cœur d'un chrétien, il n'y a pas cette forme de tristesse que même le Seigneur a démontré, il y a un problème. Il manque quelque chose. Quand le chrétien vit sa vie chrétienne comme un caméléon, C'est-à-dire qu'il arrive à parler avec des collègues d'une façon grossière, ou qui rigole à des blagues salaces, ou alors qui partage les samedis soirs avec eux sur des conversations qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a besoin de dire qu'il y a un problème, ou est-ce que ça remonte tout seul à notre conscience ? Ma parole n'est-elle pas comme un feu, déclare le Seigneur, pas comme un marteau qui brise le roc ? Alors, je disais, le marteau était utilisé à l'époque pour polir les matériaux. Taper, paf, ça fait mal, hein ? Je ne sais pas qui a pris un coup de marteau sur les doigts. Moi, j'ai arrêté le marteau. Pour garder mes doigts, j'ai arrêté. Mais ça fait mal. Et la parole de Dieu, elle fait mal. Elle fait mal. Et la parole de Dieu nous dit aussi que le marteau est le symbole d'un pouvoir qui écrase. Alors, c'est presque en désaccord. Seulement, il n'y a rien qui se contredit dans la parole de Dieu. Il faut juste le remettre dans le contexte. Là, on parle de l'autorité. Et à l'époque, on disait, et d'ailleurs, c'est un verset qui dit que le marteau représente l'oppression de Babylone qui a été le marteau de toute la terre. Il y avait une pression. Et aujourd'hui, il y a encore une pression, la pression de l'adversaire de nos âmes. L'oppression de l'accusateur des frères. Vous savez, un chrétien qui vit sa vie légère, dans la vie chrétienne, qui vit sa vie chrétienne légèrement, le diable n'a pas besoin de le titiller, hein, puisque l'objectif pour lui, c'est qu'il soit perdu, et s'il a vécu légèrement sa vie chrétienne, il n'est pas un danger pour le diable. Mais un chrétien qui vit sa vie chrétienne avec foi, avec authenticité, avec droiture, ah, le diable, il le hait. Il le hait. Il représente tout ce qu'il est. Il représente, pas tout ce qu'il est, mais tout ce qu'il haït, pardon. Et l'Église, nos familles, nos époux, nos épouses, nos enfants, est-ce qu'il y a de plus haineux pour le diable ? Parce qu'on reflète Christ. Parce qu'on reflète Christ. Et cette oppression-là, ce marteau-là, il faut savoir s'en décharger. Et la Bible nous parle effectivement du marteau de la parole de Dieu qui vient pour briser comme les cœurs durs, mais aussi les cœurs habitués qui vivent une vie chrétienne dans leur habitude, dans leur religiosité. Il n'y a pas que les catholiques, frères et sœurs, qui vivent religieusement. Il y a aussi des chrétiens, faut-il le dire, pentecôtistes ou autres, qui vivent leur vie chrétienne d'une façon légère. Et là, Dieu, par sa parole, et nous allons le voir plus tard, peut briser ses habitudes, peut briser cette légèreté. Le feu, c'est plusieurs symboles. Je vais passer rapidement. Il parle du symbole aussi de la réponse de Dieu à la prière, les sacrifices consumés par le feu. Dieu répond favorablement. C'est aussi le symbole d'un jugement. On voit Sodome et Gomorre. Mais on voit aussi, tout à l'heure, j'en parlais, la terre et ses œuvres seront consumées dans le Nouveau Testament. Le feu, c'est aussi un instrument de purificateur pour les ustensiles dans le Nouveau Testament, mais aussi pour la foi éprouvée par le feu. Représenté aussi par le feu, la présence de Dieu. Nous nous souvenons tous, nous connaissons tous par cœur, pour ceux qui ont été à l'école du dimanche aussi, la colonne de feu qui conduit le peuple d'Israël dans le désert. Mais on voit aussi dans l'acte, dans le livre des Actes, au chapitre 2, parler en langue. Langue semblable à des langues de feu se posèrent sur eux. C'est aussi la présence de Dieu. Et tous ces symboles-là nous ramènent à reconsidérer que si la parole de Dieu est ce marteau qui brise, qui convainc les cœurs, elle est aussi ce feu de la présence de Dieu dans nos vies. Et il nous faut avoir ce marteau-là. Et il nous faut avoir également ce feu-là. Alors, bien-aimés, pour nous qui connaissons le Sauveur comme notre Seigneur, comme notre Sauveur et notre Maître personnel, depuis peut-être quelques années, peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît le Seigneur depuis au moins 50 ans ici ? 50 ans. Presque 50 ans. Je préfère être dans le ciel, sœur. Mais que Dieu m'accorde cette grâce si encore il fallait patienter pour moi. Il reste néanmoins quelque chose d'essentiel pour notre sœur, comme le plus jeune d'entre nous qui connaît le Seigneur depuis peut-être beaucoup moins longtemps, c'est de savoir aujourd'hui où nous en sommes personnellement avec ce que dit la parole de Dieu. Savoir ne sauve pas. La connaissance enfle. Le fait de connaître les versets de la Bible, moi je vais vous dire honnêtement, j'ai du mal à retenir ce qu'on appelle à l'école du dimanche les adresses. Où c'est écrit ça dans la Bible? Alors, M. Ray m'a donné une méthode, et j'avais partagé en son temps avec le frère. M. Ray me dit, je lis toujours la même Bible. Parce que lui-même, il l'avoue, pas toujours évident de se rappeler de où ça... Et du coup, il me dit, je sais que ça se trouve là, à peu près là. Alors, je vais tourner une page ou deux, ou revenir sur une page ou deux, et ça se trouve là. Parce qu'il a l'habitude de lire la même Bible. La connaissance ne suffit pas. Combien même on connaîtrait les adresses, les versets cités, où ça se trouve, ça ne sauve pas. Ça aide, mais c'est pas. Le peuple d'Israël, quand Jérémie parle à ce peuple, le peuple d'Israël connaît les histoires. Abraham, Isaac, Jacob connaît l'histoire de Moïse. Ils connaissent l'histoire du désert. Ils connaissent l'histoire du veau d'or aussi. Ils connaissent aussi toute cette génération qui a péri dans le... Ils savent tout ça. Mais malgré tout ça, le peuple se détourne de Dieu. Malgré tout ça, il se détourne. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Pourquoi ? Tout à l'heure, je l'expliquais. Parce que tout simplement, on peut se laisser berner dans la vie chrétienne. On peut se laisser... excusez-moi du terme, rouler dans la farine dans la vie chrétienne. On peut s'illusionner dans la vie chrétienne. J'ai fait une expérience jadis avec le Seigneur, il m'a convaincu de péché. Je suis sauvé, point à la ligne. C'est faux ça. Une expérience ne sauve pas. La nouvelle naissance peut aussi être pour quelqu'un ce soir, ou pour moi-même, un piège. Parce que je vis dans le passé, et non plus sur le présent, et je ne me projette plus sur l'avenir. Je vis ma vie chrétienne par habitude. Le Seigneur m'a parlé il y a 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans presque pour notre sœur. Mais si notre sœur se résumait à ce que le Seigneur lui a dit il y a 50 ans, aujourd'hui elle ne serait certainement plus là. Et d'ailleurs, on a tous peut-être en tête un frère, une sœur, qui a bien commencé avec le Seigneur et qui n'est plus là. Quand je dis là, ce n'est pas forcément dans les rangs de notre assemblée, mais qui n'est plus en communion avec le Seigneur, qui n'est plus dans le plan du salut. On en connaît tous. J'ai presque envie de dire, je connais beaucoup. Pas mal en tout cas. Et ça, ça fait mal. Quand on voit un frère, on prie pour les âmes, et on en voit partir. C'est contrariant. Des fois, on a envie de se taper la tête dans le mur. Est-ce que c'est moi qui n'ai pas compris? Est-ce que c'est moi qui me trompe? Plus de saveur. Je lis la Bible, mais je ne la médite plus. Je prie pour prier, mais j'écoute plus Dieu me parler. Je viens en réunion, mais le cœur n'y est pas. Vous connaissez tous la parabole du semeur? C'est vendredi soir, c'est pas dimanche après-midi. Tout le monde connaît la parabole du semeur ce soir. Mais la parabole du semeur, on l'enseigne pour nos rayons d'évangélisation, à juste titre, mais c'est vrai aussi pour nous. La semence qui est jetée, qui est mangée par les oiseaux, la semence qui tombe dans les épines, mais aussi la bonne semence qui porte beaucoup de fruits. C'est ce que nous avons reçu. Mais la semence est encore semée. Ce soir encore, le Seigneur sème. Ce soir, le semeur sort et sème. Où tombe ce soir la semence? Où elle tombe? Et est-ce qu'elle va être utile? Ou est-ce qu'elle va tomber dans les épines? Par les soucis de la vie est étouffée? Ou est-ce qu'elle va être mangée par les oiseaux? Hein, la parole de Dieu nous dit que c'est l'adversaire qui vient et qui retire ce que Dieu a semé dans nos cœurs. Comment la semence va être semée ce soir dans notre vie? La parole de Dieu n'est-elle pas un feu? Nous savons tous ici que le feu a besoin d'oxygène, sinon il s'éteint. Et la parole de Dieu réchauffe aussi, seulement si elle est ouverte. Seulement si elle est ouverte, si elle est fermée, frères et sœurs, la Bible, aussi précieuse qu'elle soit pour nous, et elle a parcouru du chemin, hein, aussi précieuse qu'elle soit pour nous, aussi difficile que nous avons du mal à l'étudier, aussi dur que nos cœurs parfois est pour la recevoir, si elle est fermée, ça reste, j'allais employer le mot bouquin, mais ça reste qu'un livre. Ça reste qu'un livre. C'est quoi? C'est une pochette en cuir, des liserés d'or pour les plus riches. Mais ça reste que du papier et du carton. Ça, je peux en faire un livre de bibliothèque. On n'a peut-être pas tous, mais beaucoup ont les livres. Moi, j'ai dans ma bibliothèque des livres jamais ouverts. On peut avoir des livres dans la bibliothèque et jamais les ouvrir. La Bible n'est pas de ces livres-là. C'est un feu. Mais pour que le feu puisse prendre, il faut de l'oxygène, j'ai envie de dire. Il faut que la Bible soit ouverte. Et il faut y plonger nos regards. Sinon, fermée, elle ne sert à rien. Et c'est pareil. Si on veut être réchauffé par le feu divin, donc, il faut pouvoir en lire le contenu. Et j'allais dire, c'est pareil. La parole n'est-elle pas un marteau qui brise le roc? Noël a des marteaux. Et je suis sûr qu'il en donne même des noms à ces marteaux, tellement il en a. On a tous des outils un peu chez nous. Mais le marteau, si j'en ai besoin et que je ne le prends pas, il m'est inutile. Si je laisse accrocher avec les clous là sur l'établi, vous voyez ce que je veux dire, et qu'on le laisse pendre comme ça, le marteau ne sert à rien. Il ne brisera rien. Il ne tapera sur rien. Et ça peut faire mal, des fois, de taper. Mais la parole de Dieu n'est pas là pour nous viser à nous amener à une vie agréable ici-bas. Elle est là pour nous contrarier, justement, par rapport à la vie ici-bas et nous donner l'assurance de la vie éternelle. Et comme je disais au début, le chrétien qui vit ici-bas, des fois, est en désaccord total avec ce qui se passe ici-bas. C'est le marteau de la parole qui tape, qui tape, qui tape, et qui vient taper aussi, peut-être, pour pas que nous nous habituions à la vie chrétienne. Je connais un homme qui connaît la parole de Dieu et qui pourtant dit qu'il ne croit pas en Jésus. Clairement. Pourtant, il connaît bien la parole de Dieu. Il la connaît bien. Il ne laisse pas le marteau du Seigneur lui briser son cœur dur du raisonnement. Et nous-mêmes, dans notre vie chrétienne, il faut qu'on sache, même après 10, après 20, 30, 40 ans de vie chrétienne, il faut qu'on cesse de vouloir avoir un cœur trop sûr de nous. Il faut qu'on ait cette honnêteté de cœur de dire « Seigneur, mon cœur est trop dur. Il n'y a rien de bon. Aide-moi. Viens briser mes raisonnements. Viens casser mes habitudes. Viens me contrarier dans ma vie chrétienne. Viens me rappeler que c'est toi le divin potier et que le pot n'a rien à dire. » C'est toi qui forme, que c'est toi qui viens pour m'instruire et que j'ai besoin de ça. Un chrétien, un jour, il y a longtemps maintenant, c'est Franck Vidal, quelques-uns le connaissent ici, m'a dit, parce que j'ai posé la question, mais comment je peux être sûr de l'amour de Dieu pour moi? Parce que moi, je veux bien croire que Dieu m'aime. J'essaie d'être honnête avec Dieu, mais je veux bien croire que Dieu m'aime, mais pas, je ne suis pas convaincu, moi. Ma vie était quand même assez rugueuse à l'époque et j'avais du mal à croire que malgré tout ce que je vivais, tout ce que j'ai pu faire, tout ce que j'ai pu, que Dieu voyait tout ça, il me laissait vivre comme ça, j'avais du mal. Et il me disait, tu veux être convaincu de l'amour de Dieu? Lis l'épître de Jean, la première épître de Jean, lis-la tous les jours. Il m'avait dit pendant une semaine, je crois, une fois par jour, et tu vas être convaincu de l'amour de Dieu. Waouh! Si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. Après un stage, une semaine à lire cet épître-là. j'ai été convaincu de l'amour de Dieu. Convaincu. Mais non seulement ça, mais en plus cette épître est un test, un vrai test pour savoir où on en est dans la vie chrétienne. Alors je ne vais pas commenter, parce que je vais être trop long si je commente, je vais juste lire les versets. 1 Jean 3, 22 d'abord. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Écoutez et méditez vous-même dessus, je ne commenterai pas du tout. Ce qui lui est agréable. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous nous aimons les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui, et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. La Sainte Doctrine. 1 Jean 2:10. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 1 Jean 3:17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? 1 Jean 2:5, notre sens moral. À celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, l'exemple parfait, comme il a marché lui-même, Jésus. Et notre propre cœur également. 1 Jean 3:19. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurons nos cœurs devant lui, car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si nos cœurs ne nous condamnent pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Je vous laisserai méditer à la maison sur toute cette épître, et ça c'est un test pour savoir si on est dans les cordes, au diapason de la parole de Dieu. Alors cette épître de Jean a pour but de nous évaluer devant Dieu. Et non pas un but pour nous condamner, mais pour nous interpeller. Si c'était pour nous condamner, le Seigneur reviendrait tout de suite, frères et sœurs. Le Seigneur nous laisse encore dans les temps de grâce. Nous sommes dans le temps de la grâce. Frères et sœurs, je le dis pour moi, je ne veux pas, et ce n'est pas le désir de Dieu, que nous soyons des chrétiens superficiels, auvernis. Auvernis. Vous savez, le mot sincérité, hein, je crois que tout le monde le sait ici, mais peut-être pour le rappeler, vient du mot, en fait, sincère, c'est sincère. Monsieur Ray le disait régulièrement, donc tout le monde a dû l'entendre au moins une fois ici, c'est sincère. Et ça mettait en évidence ceux qui falsifiaient, qui faisaient des fausses statues à l'époque, parce qu'au soleil, ça fondait, parce que c'était de la cire. Alors que les authentiques ne craignaient pas la chaleur, le soleil, parce qu'il n'y avait pas de cire. Soyons des chrétiens sans cire, si vous me permettez le jeu de mots. Des chrétiens droits, pas parfaits, hein, parce que le frère Asquette prêchait dans l'école là-dessus, soyez parfaits comme le Père. Hein. Mais, je veux dire là, soyons des chrétiens, cherchons pas à être au-dessus des autres, mais cherchons à être ce que nous sommes devant Dieu. En tout cas, avoir un cœur honnête devant Dieu. Et ma prière ce soir pour chacun de nous, c'est que nous fassions, que je fasse moi-même le bilan, l'état des lieux de ma propre vie spirituelle. Si quelqu'un a un besoin de se remettre en question peut-être, de réformer son cœur, c'est le moment peut-être ce soir aussi. C'est le moment. Ce soir à la maison ou je ne sais. Mais ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous sommes épargnés de repentance, frères et sœurs. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez encouragés. Je n'ai pas dit tout ça pour vous accabler. Parce que je crois que, comme je le disais, le Seigneur aussi est là pour nous rappeler sa parole, pour nous ramener sur le bon chemin si toutefois nous étions écartés. Que Dieu vous bénisse et à dimanche, on va demander à Noël de bien vouloir prier.